Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, une heure pour découvrir des femmes et des hommes qui osent et qui bâtissent déjà le monde de demain. Mais aussi des entrepreneurs qui se réinventent pendant cette période de confinement. On en parle et bien sûr à mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Comment mieux accompagner nos aînés? Comment leur permettre de rester à domicile dans de bonnes conditions? Comment faire face à la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur si exigeant du service à la personne? On en parle aujourd'hui jusqu'à 14h à l'occasion du salon en mode digital de la Silver Economy et du service à la personne, salon dont Europe 1 est partenaire. Notre invité jusqu'à 14h, le patron de WeHelp, des grands noms du secteur.
À la une, en effet, Emmanuel, quand on pense aux personnes âgées, on pense au rôle des aidants. FamiHelp, c'est une appli à leur service. On va la découvrir d'ici quelques minutes.
Et quand on a un peu plus de temps, tiens, à la maison, à la retraite, eh bien, parfois, c'est le temps de lire et peut-être aussi de s'informer. Dès 1968, un magazine s'est consacré aux seniors. Ils étaient à l'époque très avant-gardistes. Et notre temps est toujours là et toujours très en forme. Ce sera la saga du jour dans La France bouge.
Chaque jour, les trophées Europe 1 La France bouge, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de La France Bouge a retenu, avec CCI France, Artefact, un projet pointu, puisqu'il s'agit de la fabrication de pylônes pour les antennes des opérateurs de téléphonie mobile. Le pitch va-t-il nous convaincre? Réponse 13h45.
Et pendant tout ce confinement, La France Bouge vous donne un coup de main. Aujourd'hui, Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH, vient nous parler des risques psychologiques liés au télétravail. Vous êtes sûrement nombreux à en subir. Ce sera aux alentours de 13h50.
Bienvenue dans La France Bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Depuis hier et encore aujourd'hui, se tiennent les salons en version digitale de la Silver Economy et des services à la personne. Plus que jamais, ce secteur du service à la personne tient une place totalement essentielle dans nos vies. Et on en parle aujourd'hui jusqu'à 14h.
Bonjour Pierre-Emmanuel Berceger.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président cofondateur de WeHelp. Vous existez, l'entreprise existe depuis 4 ans. Vous êtes partout en France pour accompagner les familles qui ont besoin d'une aide à domicile. Vous facilitez l'aide à domicile. Nous sommes en plein deuxième confinement. Comment ça va chez WeHelp?
Écoutez, aujourd'hui chez WeHelp, cela va bien. Cela va beaucoup mieux que pendant le premier confinement. Ce second confinement est beaucoup moins difficile à gérer opérationnellement et on arrive à maintenir la totalité de nos interventions et à du coup accompagner correctement la totalité des familles que l'on accompagne au quotidien.
Le fait que ça aille mieux, c'est principalement parce que les transports dans les grandes métropoles se passent bien, c'est parce qu'aujourd'hui on a des masques, donc on connaît les protocoles sanitaires et on peut avoir, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais une sorte de continuité de service quasi normale à domicile. C'est pour ça que c'est plus simple?
Exactement. C'est plus simple pour tout ce que vous venez de dire. Lors du premier confinement, nous ne connaissions rien. Cela nous était tombé dessus. Donc, il avait fallu gérer de nombreuses choses. Il avait fallu gérer en urgence les solutions de garde scolaire, de garde d'enfants. Les écoles fermant, il a fallu trouver en urgence des solutions pour l'intégralité de nos auxiliaires de vie qui, par ailleurs, étaient souvent mamans. Il avait fallu gérer également les attestations pour pouvoir prendre les transports. Il avait fallu trouver des solutions lorsque les réseaux de transport en commun étaient fermés. Et il avait également fallu gérer le sujet des masques. Mmh. Donc nous avions dû trouver des solutions pour tout cela. Pour le sujet des masques, par exemple, nous avions dû organiser en urgence un pont aérien avec la Chine pour nous faire livrer en urgence des dizaines de milliers de masques pour maintenir...
Vous directement, WeHelp. Quand
nous
vous dites
qu'on
a dû faire
WeHelp.
Un pont aérien avec la Chine, c'est vous, petit entrepreneur dans votre coin, vous avez dû faire un pont aérien avec la Chine.
On a dû trouver des fabricants sur place pour nous envoyer des masques en urgence qui livraient via avion, via DHL, des dizaines de milliers de masques qu'on a dû après répartir dans toute la France pour maintenir les interventions.
Donc ça, c'était pour le premier confinement. Maintenant, deuxième confinement, on a les masques. Les enfants vont à l'école. Donc les auxiliaires de vie peuvent aller travailler chez les personnes qui en ont besoin chaque jour. Quels sont aujourd'hui les besoins qui reviennent le plus pour ce deuxième confinement? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus?
Alors, ce qu'on nous demande le plus aujourd'hui chez WeHelp, c'est de maintenir les accompagnements et de remplacer certains aidants familiaux quand eux ne peuvent plus du coup venir du fait de la distance et du fait du confinement.
C'est-à-dire pourtant, que... ça fait partie des dérogations de venir en aide aux plus vulnérables.
Alors, ça a beau faire partie des dérogations, c'est moins simple quand, par exemple, vous habitez à 200 ou 300 km de votre proche et du coup, vous pourrez être rassuré, certaines personnes ont envie d'accélérer la mise en place des aides à domicile.
Donc, il a fallu en trouver rapidement. en ce moment.
Exactement. Nos besoins de recrutement n'ont jamais été aussi élevés et on continue de recruter de nombreux auxiliaires de vie pour faire face à la croissance des besoins.
On va y venir dans un instant au recrutement, mais on sait aussi ce qui est le plus difficile dans ces confinements, c'est le sentiment d'éloignement et le sentiment de ne plus pouvoir voir ses plus proches. Alors même si ça s'est un tout petit peu assoupli dans ce confinement, c'est une réalité. Est-ce que ça renforce aussi les besoins des plus âgés que vous aidez ? C'est-à-dire qu'il faut venir peut-être plus souvent à la maison, il faut rassurer, il faut peut-être encore plus aider à faire les courses parce que pour pas tomber malade, on préfère rester à la maison plutôt que de sortir. Quelques exemples qui me viennent en tête, je ne sais pas si c'est la réalité.
Si, c'est bien évidemment la réalité, Emmanuel. C'est-à-dire que quand habituellement, vous avez la famille qui passe régulièrement au domicile pour faire acte de présence et du coup réduire l'isolement des personnes âgées dépendantes. Dans cette période de confinement, des freins sont mis à cela, même si c'est un des critères de l'attestation. Donc certaines familles nous demandent de compléter et du coup d'augmenter le nombre de passages des auxiliaires de vie pour du coup compenser ça. Une autre chose qu'on a fait, nous, pour lutter contre l'isolement, c'est une opération qu'on appelle les lettres joyeuses. On envoie une fois par semaine aux personnes âgées une lettre avec de nombreuses choses et de nombreuses activités. Par exemple, les fêtes de la semaine, comme vous savez, les grands-parents aiment beaucoup fêter les fêtes. Des petites activités, des exercices de stimulation intellectuelle, des idées de balade, des idées de recettes. Et ça permet du
et
coup
ça marche
de... Ça marche très bien. Les personnes, nos bénéficiaires adorent ça. Ça leur donne du coup un sujet de conversation, ça leur donne quelque chose à faire avec leur auxiliaire de vie.
Vous les personnalisez du coup quand vous dites une idée de balade, si j'habite à Montbéliard ou si j'habite à Bordeaux,
c'est pas la même balade. C'est-à-dire qu'on fait en sorte, ça permet du coup de générer des nouveaux sujets, des nouvelles activités avec l'auxiliaire de vie. Et c'est un petit pense-bête qui aide les personnes âgées, par exemple, à se rappeler que tel jour sera la Saint-Pierre et du coup qu'elle peut la fêter la semaine prochaine.
Mais alors ça, ce sont d'excellentes idées que vous êtes en train de nous décrire. Ça va se perdurer après le confinement, tout ça ?
Bien évidemment.
Vous êtes en train du coup de développer votre activité différemment ?
Exactement. Tout ce sur quoi on a travaillé pendant le confinement pour réduire la lutte contre l'isolement sont des bases qu'on va continuer à réutiliser pendant les mois et les années à venir pour continuer à réaliser la mission d'Ouyelp. Et la mission d'Ouyelp, c'est quoi ? C'est permettre aux personnes âgées dépendantes de vieillir le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles, chez eux, et si possible, leur éviter d'aller en maison de retraite et répondre à leur souhait qui est, si possible, de finir chez eux.
On va continuer à parler de toutes ces solutions pour améliorer le bien-être des personnes âgées. Pierre-Emmanuel Berceger, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes le président cofondateur de WeHelp.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et aujourd'hui, on s'intéresse à nos aînés, à voir comment on peut mieux rester à la maison et surtout plus longtemps, à l'occasion notamment du salon qui se passe en digital, bien évidemment, de la Silver Economy et du salon des services à la personne et de l'emploi à domicile, dont Europe 1 est aujourd'hui partenaire. Et pour tout cela, notre grand témoin aujourd'hui, c'est Pierre-Emmanuel Berceger, qui est le président cofondateur de WeHelp.
Et vous faites peut-être partie des 11 millions d'aidants en France. Un Français sur 6 apporte une aide régulière à une personne âgée. Parfois, c'est toute une organisation à mettre en place, car la vie de l'aidant continue par ailleurs. Alors, il existe une solution qui a été mise en place par vous, Agnès Dupuis. Bonjour.
Oui, bonjour Elisabeth. Effectivement, nous avons créé l'application Famille Help.
Voilà, cette application Famille Help, elle existe depuis un an et elle facilite elle aussi la vie des aidants. Ça veut dire quoi, faciliter la vie des aidants ?
Eh bien, comme vous l'avez dit, Elisabeth, effectivement, les aidants aujourd'hui en France sont 11 millions. Et ce sont des personnes qui interviennent quotidiennement, voire chaque semaine, comme le disait Monsieur Berceger, pour aider leurs proches à continuer de rester à domicile dans les meilleures conditions. Et pour ce faire, effectivement, les aidants ont besoin d'avoir accès à des informations, que ce soit des informations de type institutionnel ou autre, ont besoin aussi d'avoir accès à des conseils, à des retours d'expérience et également à des prestataires de services qui vont les aider à maintenir leur vie à domicile dans les conditions qu'ils souhaitent et en tout cas à retarder au maximum l'entrée éventuelle en maison de retraite.
Vous êtes vous-même aidante de personnes âgées, je crois que c'est de là qu'est née votre idée. De façon concrète, comment ça fonctionne ?
Alors en fait, je suis aidante, moi, effectivement, de mes parents, mais l'application Famille Help a été développée de par mon expérience dans le service à domicile, puisqu'il y a 15 ans, j'ai créé une structure de service à domicile pour personnes âgées sur la région lyonnaise. Et effectivement, cette expérience-là m'a amenée à être en contact énormément avec des aidants qui organisent tous les jours le maintien à domicile, qui répondent aux questions, qui mettent en place des choses. Alors ça peut être des choses très concrètes, par exemple mettre en place du matériel médical, faire appel à un service de portage de repas. Et tout cela, ce sont des informations qui sont disparates. Elles ne sont pas concentrées dans le même endroit, dans la même, même dans la même application. Donc, enfin, on ne peut pas la trouver. C'est une information.
Donc votre application, si je résume, Family Help, c'est une sorte de moteur de recherche avec toutes les informations autour des aidants. Parce qu'en plus, je crois qu'il y a une fonction de géolocalisation.
Voilà tout ça, effectivement. Alors c'est effectivement tout cela, c'est une application qui va permettre de géolocaliser à proximité du domicile de la personne aidée différents services ou différents services publics, donc soit des prestataires de services à domicile classiques, soit des services publics, soit des associations, mais pas que, puisque dans l'application, nous avons aussi eu à cœur de fournir aux aidants de l'information. Donc vous allez trouver une base d'informations.
Ils ont
avec
besoin
des
de quoi
vidéos,
comme information, par exemple, les aidants? Parce qu'au-delà, par exemple, de chercher un fauteuil roulant géolocalisable, là, j'imagine qu'on le trouve sur votre appli, mais quels sont les... Ils ont certainement des besoins que l'on ignore quand nous ne sommes pas concernés.
Tout à fait. Donc, dans l'application, effectivement, il y a une base documentaire avec des vidéos qui expliquent ce qu'est la dépendance, par exemple, comment je prends en charge une personne âgée pour détraumatiser un petit peu cet épisode de la vie de chacun d'entre nous. C'est aussi également comment je peux faire un dossier APA, c'est-à-dire que ce sont des aides aujourd'hui qui sont dispensées par les institutions publiques qui permettent de prendre en charge financièrement des aides de type aide à domicile. Donc l'application, ça peut vous le propose. Et quand on est aidant aussi, on est souvent seul. Très souvent seul et on est face à des questionnements, à des doutes. Et effectivement, dans l'application, vous pouvez trouver d'autres aidants qui sont à proximité de vous, avec lesquels vous pouvez décider d'entrer en contact via le chat de l'application.
Ah, c'est vachement important, ça, de pouvoir échanger avec ceux qui sont concernés.
Effectivement, parce que parfois, l'isolement et le fait d'être seul, c'est ce qui est bien évidemment le plus compliqué dans ces missions qui sont si dures à exercer au quotidien. Pierre-Emmanuel Bercechet, je rappelle que vous êtes le fondateur de WeHelp. Vous apportez des auxiliaires de vie, justement, pour nous permettre de rester à domicile. On voit que la technologie aide, et je crois que vous, c'est un point important chez vous, puisque vous avez un algorithme de matching. Alors, c'est très, en très mauvais français, mais grosso modo, là aussi, de rencontre d'une certaine manière, qui identifie l'auxiliaire la plus adaptée à chaque prise en charge. La technologie, c'est l'avenir aussi de votre métier pour que les deux se rencontrent mieux ?
Clairement. La technologie est l'avenir du métier pour permettre, en fait, de libérer du temps aux humains. Une entreprise de service à la personne, d'aide à domicile, a une belle composante opérationnelle. Réussir à trouver la bonne auxiliaire de vie au bon endroit, au bon moment, gérer les plannings et gérer, faire en sorte que ça se passe bien au quotidien, ça génère une grosse complexité opérationnelle. Et l'ordinateur est très pertinent pour simplifier cette complexité opérationnelle, libérer du temps des humains et leur permettre d'attribuer ce temps à ce qui crée le plus de valeur, c'est-à-dire s'occuper des autres.
Mais là, dans cette sorte, pardonnez-moi l'expression, mais d'appli de rencontre pour que les deux soient le plus coordonnés, qu'est-ce qui est important ? C'est-à-dire, vous connaissez un peu les passions de vos auxiliaires de vie ou du coup, la conversation va être plus facile avec la dame ou le monsieur dont ils vont s'occuper, des histoires d'enfants, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qui est important pour que ça se passe bien, justement ?
Alors, ce qui est important, déjà, c'est un sujet de disponibilité et de proximité géographique. Une auxiliaire de vie qui est très proche aura une auxiliaire de vie qui aura plus de facilité à arriver au domicile, moins une probabilité plus faible d'avoir des retards. Et ensuite, on peut ajouter plein de choses qui sont plutôt de l'ordre de, on va dire, de critères subjectifs. Ils sont par exemple le fait que, historiquement, cet auxiliaire de vie a eu des accompagnements sur des personnes avec certains types de pathologies.
Avec la même type de pathologie.
Et donc, du coup, il y a plus de chances que ça se passe bien.
Agnès Dupuis, pour Famille Help, elle a un coût, votre appli ?
Alors, pour les aidants, elle est 100% gratuite, c'est-à-dire que... À aucun moment, l'aidant va payer quelque chose pour l'utiliser.
Mmh. D'accord, donc c'est gratuit. Donc pour celles et ceux qui ont envie de se connecter là, en ce moment sur Family Help, il suffit juste de télécharger l'appli et c'est bon. Elle pourra entrer en relation avec d'autres aidants grâce à votre système de géolocalisation.
Elle pourra créer un compte aidant.
Un compte aidant, d'accord.
Tout à fait, elle pourra créer un compte aidant, effectivement, et avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'application.
Ça s'appelle Family Help. Merci à vous, Agnès Dupuis.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et à l'occasion du salon en digital, bien évidemment à distance, donc de la Silver Economy et du salon des services à la personne et de l'emploi à domicile dont Europe 1 est partenaire, on concentre aujourd'hui notre émission sur comment mieux vivre à la maison et comment aider nos aînés à pouvoir y rester. Pour cela, on est avec Pierre-Emmanuel Bercechet, qui est le président et cofondateur de WeHelp, une de ces entreprises de services à la personne, comme on dit. Alors justement, avec le Covid, on parle en ce moment beaucoup, bien évidemment, des EHPAD, des maisons de retraite et de la difficulté dans ces établissements à juguler la maladie parce que les lieux sont clos avec des personnes qui sont bien évidemment beaucoup plus vulnérables. Est-ce que du coup ça change complètement la donne pour vous parce que les gens aujourd'hui cherchent à rester beaucoup plus longtemps à la maison et cherchent donc des solutions adaptées pour cela?
Alors bien évidemment, ce qui s'est passé ces derniers mois change complètement la donne pour le maintien à domicile. Les gens voulaient déjà majoritairement rester à domicile le plus longtemps possible et maintenant vraiment ils ne veulent plus aller dans les EHPAD. Donc on a vraiment de nombreuses demandes de familles qui veulent du coup tout mettre en place pour
des nouvelles familles.
Des nouvelles familles et même certaines qui essaient de faire sortir leurs proches de l'EHPAD pour les remettre à domicile et leur permettre de rester le plus longtemps possible chez eux.
Ils vous donnent quoi comme argument quand ils vous disent « j'ai ma mère ou ma grand-mère dans un EHPAD et je veux à tout prix la faire sortir ».
Alors, il y a deux arguments. Le premier argument, c'est un argument sanitaire. C'est la peur du coup du Covid qui est beaucoup plus forte en EHPAD qu'à domicile, parce que le domicile a été très, très peu touché par rapport aux EHPAD. C'est sans commune mesure. Et le deuxième argument est plutôt un argument de respect du libre choix du proche dépendant, qui est de lui permettre de rester le plus longtemps possible chez soi. Et il y a un élément à prendre en compte, c'est qu'il y a à peu près environ 70% des gens qui sont en EHPAD qui n'ont pas un état de santé justifiant absolument un placement en résidence médicalisée, ce qui est un EHPAD.
Mais c'est quoi un état de santé qui justifie d'aller en EHPAD et, ou un état de santé qui permet de rester à la maison? Comment vous arrivez à jauger cette différence?
Alors ça, c'est le métier de nos salariés, de nos experts, de mes équipes qui sont pour la plupart des experts du médico-social, qui vont à domicile, qui font des évaluations de besoins et qui mettent en place des plans d'accompagnement pour du coup correspondre le plus possible aux besoins et permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible à domicile. Et dans l'imagerie populaire, on a l'impression qu'on peut, à un moment, le passage en EHPAD est obligatoire, et ce n'est pas le cas. On peut rester quasiment, dans une grande majorité des cas, jusqu'à la fin, à domicile.
Malgré tout, ça change un peu votre métier, puisque c'est différent d'apporter une aide temporaire pour le ménage, pour les courses, pour véhiculer parfois la personne âgée, et assurer des soins beaucoup plus lourds pour aider cette personne âgée à rester à la maison. Votre métier va donc tendanciellement accélérer sa mutation à cause de ces confinements que nous sommes en train de vivre.
Exactement. Notre métier est en train d'évoluer vers un métier en quasiment de santé et de coordination médico-sociale, de parcours de soins pour permettre à la personne de rester le plus longtemps possible chez elle. Donc notre métier consiste à coordonner avec les différents acteurs la prise en charge de la dépendance à domicile, de travailler avec l'infirmière libérale, de travailler avec l'entreprise de livraison de matériel médical, de travailler avec le médecin généraliste pour permettre du coup à la personne âgée de rester le plus longtemps possible chez elle.
Donc rester le plus longtemps possible à domicile, vous êtes en train de muter, Emmanuel est en train vient de l'expliquer. Donc ça signifie qu'il va falloir recruter des profils différents. On avait lu en préparant l'émission avec Emmanuel, vous retenez à peine 5% des candidatures qui arrivent chez vous. Quels sont les critères pour avoir la meilleure auxiliaire de vie possible?
Alors, le premier critère pour avoir la meilleure auxiliaire possible, c'est d'abord un critère de compétence. Il faut que la personne, du coup, sache faire ce métier d'auxiliaire de vie. Et ensuite, le critère primordial, c'est des qualités de cœur, des qualités humaines. Il faut que ça soit quelqu'un qui ait envie de faire ce métier.
Mais ça, vous le mesurez comment?
La seule solution de le mesurer, c'est de rencontrer la personne, d'échanger avec elle et de se rendre compte si la personne a vraiment une vocation et une envie d'aider ou si elle a plutôt envie de faire ça comme un métier purement alimentaire. C'est un métier qui est extrêmement exigeant et il faut vraiment une vocation pour le faire.
C'est un métier d'autant plus exigeant que selon l'INSEE, auxiliaire de vie, c'est la profession la plus précarisée de France. Les auxiliaires de vie sont payés au SMIC à temps partiel. Elles subissent en plus souvent des amplitudes horaires extrêmement importantes, des déplacements importants. L'un des fondements de WeHelp, c'est de mieux les payer. De façon très concrète et sans faire de pub, qu'est-ce que ça veut dire pour l'auxiliaire de vie? Vous la payez combien en plus que la moyenne de secteur?
Alors, une auxiliaire de vie dans le secteur commence au SMIC horaire. Et chez WeHelp, elle commence à 10% de plus que le SMIC. Et au fil du temps, elle peut évoluer jusqu'à 20 à 25% de plus que le SMIC. Donc concrètement, ça permet des rémunérations supérieures. Et notre modèle leur permet en plus d'avoir en moyenne plus d'heures.
Mais est-ce que vous prévoyez d'aller encore plus loin? Parce qu'en ce moment, il y a une totale pénurie sur ce marché. Quand vous retenez que 5% des candidatures, c'est parce que vous estimez qu'il n'y a que ça de bien, d'une certaine manière. Parce que, comme vous le disiez, il faut mesurer l'envie de ces gens. Mais c'est très compliqué aujourd'hui de recruter.
Clairement, c'est très compliqué. Mais le salaire n'est pas la seule composante. La qualité de travail au quotidien est un enjeu extrêmement important.
Mais c'est quoi la qualité de travail au quotidien ?
Ça va être du coup la qualité des plannings, faire en sorte d'avoir des horaires plus ramassés, moins étendus, d'avoir moins de temps de transport, d'avoir des plannings beaucoup plus stables, de pouvoir s'engager dans la durée et d'offrir à une auxiliaire de vie, à Marilyn, auxiliaire de vie chez WIHELP, la possibilité de s'engager dans le temps et de savoir que tous les jours à 9h, elle ira chez la même personne et que son planning ne va pas changer toutes les semaines.
Oui, parce que vous, votre promesse, et ça c'est important pour nos auditeurs, c'est de faire en sorte que la personne âgée garde la même auxiliaire de vie du début à la fin, entre guillemets. Donc ça, c'est un pari qui est totalement fou dans ce secteur.
Exactement. Ça, c'est le gros de la promesse. Et c'est offrir à Madame Michu, 87 ans, la possibilité de travailler avec Marilyn et d'avoir Marilyn comme auxiliaire de vie, comme accompagnante, le plus longtemps possible. Et si ça peut durer des années, c'est encore mieux. Mmh. Et de l'autre côté, ça offre la possibilité, du coup, à Marilyn, auxiliaire de vie chez UL, d'avoir de la visibilité sur son planning et de faire le métier qu'elle a choisi, qui est de s'occuper du coup d'une personne et de ne pas découvrir tous les jours où est-ce qu'elle va aller le lendemain.
Vous disiez depuis le début de l'émission que vous avez aujourd'hui beaucoup plus de besoins et que les confinements accélèrent les besoins. Vous avez donc, j'imagine, des postes à pourvoir en ce moment. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez 700 auxiliaires de vie. L'ambition, vous m'avez dit, c'est de doubler, c'est ça ?
Exactement. L'ambition est d'à peu près doubler dans un an, et ce qui veut dire qu'on va recruter plus de 500 auxiliaires de vie sur 2021. Et au-delà de recruter ces 500 auxiliaires de vie, on va également recruter des postes en interne.
Donc là, de façon très concrète, des gens qui nous écouteraient, il y en a des millions qui sont en train d'écouter Europe 1 comme chaque jour, appellent WIHELP et disent « voilà, moi je suis intéressé, je sais que je fais partie des 5%, embauchez-moi ».
Exactement. Et on sera ravis de les recevoir et du coup de leur offrir la possibilité de faire ce merveilleux métier qu'est auxiliaire de vie.
Est-ce que ça signifie que le premier confinement, on a vu qu'il y avait un besoin énorme, a créé des vocations pour toutes ces futures auxiliaires de vie ?
Alors le premier confinement a créé de nombreuses vocations. On a eu énormément de demandes de personnes qui voulaient du coup rendre service, qui voulaient du coup
s'impliquer. Mais rendre service, c'est pas un métier.
Non, c'est pas un métier, mais c'est pour dire que l'envie de donner du sens est quelque chose qui est fondamental et qui est vraiment un mouvement très fort dans toutes les générations, et les gens ont envie de se lever le matin avec un métier qui a du sens, et du coup c'est un mouvement de fond qui va nous aider à générer des candidatures de qualité et des nouvelles auxiliaires de vie.
Je suis sûr que là on a beaucoup de nos éditeurs à la maison, en voiture, qui se disent ils sont bien gentils, la France bouge, mais ça coûte 20 fois plus cher son service que la moyenne, parce qu'il nous dit qu'on a la même personne, il nous dit qu'il paye mieux ses salariés.
C'est énorme, avec un tel turnover, c'est énorme.
Comment on fait pour rester aussi à un tarif qui est acceptable pour les familles? Parce que c'est bien gentil de garder ses aînés à la maison, mais il faut pouvoir payer.
Exactement. Alors le prix d'une heure d'accompagnement chez WIHELP est aligné avec ce qui se fait à peu près partout sur le marché. C'est à peu près entre 20 et 25 euros de l'heure. Mmh. Et comment on fait pour réussir à maintenir ces tarifs en payant mieux les auxiliaires de vie ? On revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est l'utilisation massive de la technologie pour simplifier toutes les tâches à faible valeur ajoutée et faire en sorte que le temps des humains soit utilisé là où il crée de la valeur, c'est-à-dire s'occuper d'autres humains. Mmh.
Pierre-Emmanuel Berceger, est-ce que vous connaissez le magazine
Notre Temps ?
Bien évidemment, la Bible des Seigneurs.
La Bible des Seigneurs, c'est un magazine qui, depuis 1968, ça paraît loin quand même, hein, s'intéresse aux personnes âgées.
Oui, un magazine qui suit l'évolution de notre société. On n'est même pas encore seigneur qu'il y a déjà 50 ans, c'était lancé. Aujourd'hui, c'est la saga du jour, portée par Dora Nana.
Europe 1, la France bouge. La saga.
Un magazine destiné aux seniors qui a su s'adapter à chaque époque depuis plus de 50 ans. Avec dès sa création en 1968, un projet donner aux retraités une existence sociale à une époque où retraite est encore synonyme de mort sociale. Alain Auger, directeur général de Bayard Presse.
Les générations partaient à la retraite à 65 ans et l'espérance de vie était à 72 ans. Donc le temps à la retraite en fait était assez court et du coup la population à la retraite se voyait peu considérés. En réalité, les retraités étaient assez refermés sur eux-mêmes. Donc le projet de Roger Lavial, c'était vraiment de faire rentrer les seniors dans la société et de les garder en vie jusqu'au bout.
Un mensuel vendu 1,50 francs avec des slogans comme « Interdit aux moins de 50 ans »,« La vie démarre à 60 ans » et un objectif, rendre la vie des seniors plus joyeuse.
Même si on sait bien qu'on est plus vieux, que les choses sont plus difficiles, et en même temps, on reste dans un appétit de vivre absolument formidable. Et donc notre temps, c'est vraiment aussi ça, c'est d'essayer de se donner des armes et du courage pour continuer à être en relation avec les autres.
À chaque époque, son évolution sociétale. Dans les années 80, c'est par exemple l'industrie du tourisme qui est en plein essor et notre temps accompagne le mouvement en organisant par exemple des croisières, mais son rôle ne s'arrête pas là.
On a beaucoup participé à l'émergence du camping. Le camping, c'est Trigano, on chantait quand on était dans ces années-là. Les années caravanes, à Lacano ou à Palavas-les-Flots, c'est la construction de la grande motte à Montpellier. Vous voyez, c'est toute cette phase-là qu'on a beaucoup accompagnée.
En 1988, ils atteignent le million d'exemplaires vendus chaque mois. Et avec une espérance de vie toujours plus longue, les attentes changent. On veut rester en bonne santé et être bien entouré.
Et notre temps, on essaye sans être casse-pieds de vraiment aider les gens en leur proposant des trucs et astuces, des encouragements, des connaissances, des moyens de rencontre pour qu'ils aillent mieux et puis pour qu'ils aident aussi les gens autour d'eux à aller mieux.
Dès les années 90, le magazine part en croisade contre la solitude et l'isolement de nos aînés en soutenant des associations ou en initiant des opérations comme récemment « Viens, je t'emmène ».
C'est beaucoup de villes de France qui montent des opérations « Viens, je t'emmène » à travers de l'intergénération, de sortir les aînés pour les faire participer à des opérations culturel ou de mini-voyage local. On dit vraiment sortez, rencontrez-vous, faites des choses ensemble, parce que c'est là qu'est la solution et la clé de la bonne vie.
En 2020, notre temps continue son petit bonhomme de chemin en se voulant toujours plus proche de ses lecteurs, qui le lui rendent bien. Ils sont 4,8 millions au total chaque mois. Un magazine qui s'adresse aujourd'hui à deux, voire trois générations.
Deux, voire trois générations, c'était la saga du jour, portée par Dora Nana. Pierre-Emmanuel Berceger, vous êtes le président cofondateur de WeHelp. Vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, 13h45, c'est parti pour les trophées Europe 1, la France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier, toujours devant l'œil attentif et exigeant de notre grand témoin du jour. Aujourd'hui, c'est Pierre-Emmanuel Berceger qui est le cofondateur de WeHelp, service à la personne.
Bonjour Mathieu Segaud.
Bonjour.
Vous avez 51 ans, vous êtes le cofondateur de Art et Fact. Alors, ce n'est pas votre première entreprise. Hein. Nous, on aime bien s'intéresser aussi au parcours de nos pitchers. Vous êtes ancien cadre dans la banque, vous avez créé une fromagerie en 2017. Et là, Art et Fact, depuis un an, des pylônes de téléphonie mobile. Vous allez tout nous raconter. C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
Merci à vous, bonjour à toutes et à tous. En effet, je me suis associé avec mon ami Denis Verlet, qui est lui le fondateur d'Artefact Innovation et qui a eu cette idée, puisqu'il évolue dans le domaine des infrastructures de téléphonie mobile. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire, infrastructure téléphonie mobile? Aujourd'hui, vous savez, quand on utilise son téléphone mobile, il faut du réseau. Et pour avoir du réseau, on est entouré de pylônes, et au sommet de ces pylônes, on trouve des antennes pour avoir ce fameux réseau. La problématique, c'est que ces pylônes qui sont souvent en ferraille, il faut se dire les choses, sont souvent pas très agréables à regarder et s'intègrent pas vraiment dans le paysage. Donc nous, Artefact Innovation, ce qu'on fait, on essaye d'apporter la solution à ces dégradations visuelles en concevant des structures, et on appelle ça des structures plutôt que des pylônes, un peu comme des œuvres d'art, c'est-à-dire avec un design beaucoup plus agréable et qui permet à ces mâts de s'intégrer parfaitement d'une part à l'environnement, d'être en harmonie avec la nature, que ce soit d'ailleurs dans les villes ou dans les campagnes. Ces structures sont d'ailleurs même, on peut les appeler camouflées par moment, puisqu'on peut même les végétaliser, donc leur faire grimper des plantes sur les structures.
Ah, et
au niveau
fini.
Technique...
C'est fini, je suis désolé.
La voix d'Emmanuel vous arrête.
Je suis le bad cop, c'est moi. Elisabeth, c'est la gentille, moi je suis le méchant.
Aucun souci.
Il faut s'arrêter là,
mais pas
en tout cas, on a très très bien compris. Et bravo à vous, Mathieu Segaud, pour ce pitch bien réussi.
Oui, c'était un très bon pitch.
Merci,
on en sait un peu plus sur Artefact, Mathieu. Alors Mathieu, je vous présente Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel, bonjour Mathieu.
Bonjour Nathalie.
Nathalie, c'est notre experte chargée de l'entrepreneuriat à la CCI France. Elle a deux, trois choses à vous dire, les forces et les faiblesses d'Artefact.
Oui, merci. Alors trois points positifs d'abord. Donc évidemment, le contexte est très favorable. Je n'ai pas trouvé le nombre exact de pylônes pour la téléphonie
vous
en France.
Vous êtes amusé à les compter.
Oui, bravo, du coup, je les ai comptés.
Il y en a des milliers. Rien qu'à Paris, il y en a 250 pour la 4G.
Ah ben voilà. Mais en tout cas, je sais que c'est plus de 10 000 et probablement qu'on va arriver à 20 000, dont un certain nombre, au moins 5 000 en construction. Donc évidemment, vous êtes dans un contexte extrêmement favorable. Très favorable aussi le contexte vu la sensibilité des Français à la pollution visuelle. C'est vrai qu'entre les panneaux de pub et les pinots et les pylônes, ça fatigue un peu. Et puis enfin, la technologie utilisée qui réduit le temps de fabrication, qui réduit les émissions carbone et qui permet la personnalisation du pylône pour l'intégrer vraiment dans le paysage. Je mettrai un point amélioré qui s'appelle la réassurance. vous vous adressez plutôt à des collectivités locales qui doivent choisir des prestataires dans le cadre de marchés publics. Donc, je dirais rassurer pour convaincre, apporter les preuves de chacune de vos assertions sur la sécurité, sur le coût de l'entretien, sur la durabilité, pourquoi l'impression 3D, etc. Légitimer pour convaincre. Qui êtes-vous ? Votre expérience, vos partenaires, les brevets déposés éventuellement. Et puis peut-être dernier point, associez-vous pour accéder au marché. C'est quand même très compliqué de gagner des marchés publics quand on est une entreprise qui démarre. Peut-être pouvez-vous monter un GE avec une entreprise complémentaire qui pourrait soutenir votre candidature dans le cadre d'un marché public.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à toutes ces réflexions de Nathalie Carré, Mathieu Segaud ?
Bah écoutez, d'une part, merci beaucoup pour ce feedback. Mmh. Effectivement, on est sur un marché qui est énorme aujourd'hui, en fait. Hein. On a besoin d'être tous équipés de réseaux. Par contre, personne ne veut avoir une antenne près de chez soi, surtout quand elle n'est pas très jolie. Donc, on est conscient d'avoir un marché qui est très, très ouvert. Après, nous, on a la chance d'avoir, un pool de partenaires qui sont, pour tout ce qui est, entre guillemets, réassurance, comme en parlait Nathalie, qui sont des gens qui sont sur la place depuis des années, entre un designer, architecte qui s'appelle Lamour, entre l'imprimeur 3D en béton qui s'appelle X-Tree et l'entreprise qui va monter ces pylônes qui s'appelle Fraissinet, que tout le monde connaît. Et en plus, on a également la chance d'avoir une structure que tout le monde connaît également qui s'appelle Bouygues Télécom et Île-de-France qui aujourd'hui nous suit pour lancer ses premiers pilotes, pour que l'on soit visible et ensuite qu'on puisse, on l'espère, développer ça dans toute la France et peut-être ailleurs encore.
Vous allez avoir un énorme marché en plus là en développement, puisque aujourd'hui, c'est une date qui restera peut-être dans les livres d'histoire, c'est aujourd'hui que la 5G officiellement est autorisé en France. Alors, ceux qui cherchent leur téléphone portable ou du réseau, ça ne sert à rien. Il n'y en a pas encore. Ce sera début décembre. Il faudra changer son téléphone et changer son abonnement pour pouvoir bénéficier de la 5G. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir mettre partout en France de nouveaux pylônes. Un énorme marché pour vous ?
Tout à fait. Alors, même hormis la 5G, si vous voulez, l'État a lancé il y a quelques années le New Deal, un plan haut débit qui impose globalement aux quatre opérateurs de faire en sorte que la globalité du territoire français soit équipée en 4G, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, non, rien que par rapport à ça, il y a beaucoup de nouveaux points à équiper, que ce soit en zone justement urbaine, que ce soit en zone rurale. Et bien évidemment, maintenant, avec le principe de la 5G qui arrive, avec des ondes qui sont raccourcies, il faut installer de plus en plus de pylônes. On a également un sujet, sachant que nous, on est vraiment sur une niche, hein, puisque nos pylônes, on arrive avec des choses complètement designées, complètement architecturées, complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui et qui, on espère, vont convaincre les opérateurs et les collectivités, comme le disait Nathalie.
Du coup, ils coûtent beaucoup plus cher, vos pylônes ? Ça coûte cher de les végétaliser, tout ça ?
Il coûte forcément un peu plus cher aujourd'hui, d'une part, de par tout le sujet recherche et développement qu'on a lancé dessus. Mais globalement, on a déjà dans notre business plan des réflexions de fait sur le sujet économique pour faire en sorte que ce ne soit pas une contrainte demain pour les opérateurs qui, à certains endroits, savent qu'il faut rajouter un petit peu plus d'argent pour mettre un pylône. Mais il ne faut pas non plus exagérer et doubler les prix, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs.
Pierre-Emmanuel Berceger, président cofondateur de Wheelab, ça vous inspire quoi là ? Cet entrepreneur Mathieu Segaud qui cofonde Artefact ?
Alors ça me semble être un très beau projet, complètement dans l'air du temps, d'essayer de réduire les nuisances du déploiement de tous ces pylônes. On en a besoin de ces pylônes, et du coup, essayer de faire en sorte que ça soit une plus faible nuisance que celle qu'elle a aujourd'hui, me semble être une excellente idée.
Donc vous validez ?
Je valide complètement.
Merci à vous, Mathieu Segaud, et bonne chance pour Artefact.
Et pour tous ceux qui veulent candidater à La France Bouge pour venir pitcher, une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Pierre-Emmanuel Berceger, vous restez avec nous, suite et fin de notre émission.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Dernière partie de votre émission, nous sommes avec Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH. Pendant toute la durée de ce deuxième confinement, on vous donne des conseils, que vous soyez entrepreneur ou salarié.
Bonjour Benoît Serre.
Bonjour.
Aujourd'hui, on se place du côté des salariés. Vous allez nous aider à y voir plus clair sur le télétravail et en particulier sur les risques psychiques liés à ce nouveau mode de vie, parce qu'il y en a des risques.
Oui, vous avez peut-être vu d'ailleurs l'enquête qui est sortie, qui démontre que la dépression ou le burn-out dans le milieu professionnel est la deuxième cause d'arrêt de travail.
En ce moment.
Ce qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet qui se confirme, puisque pendant la première phase de confinement, on avait commencé à repérer ce genre de choses et on sent que la deuxième phase aggrave encore la situation.
Mais alors comment on fait quand on est manager pour déceler le début de burn-out chez un collaborateur à distance ?
Déjà, le premier sujet, et ce que je peux dire à la fois au DRH et aux chefs d'entreprise, c'est qu'il faut former ses collaborateurs à détecter les signes.
Quels sont ces signes ?
Les signes, c'est une grande difficulté à s'organiser. un sentiment de constat, c'est des phrases du style, j'y arrive plus, j'ai trop de rendez-vous, j'ai trop de réunions, j'ai pas eu le temps de faire ça, je comprends pas ce que t'es en train de me dire. Et, ou alors des moments d'absence, c'est-à-dire que vous êtes en réunion et tout d'un coup vous voyez qu'un de vos collaborateurs, il est plus du tout avec vous, quoi. Vous lui posez une question, il répond à côté, alors que c'est des sujets qu'il connaît. Ça, c'est des signes qui sont un peu révélateurs d'une pré-situation de burn-out, je dirais.
Mais comment on peut arriver à un burn-out en étant en télétravail ? Ma question est peut-être un peu stupide, mais parce qu'on a l'impression de se dire bon, bah, les personnes sont à la maison, elles peuvent s'organiser, elles sont dans leur environnement familier. Comment on en arrive là ?
Alors on en arrive là parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, les gens qui souffrent du télétravail ont le sentiment qu'au contraire, c'est leur vie professionnelle qui organise leur vie privée.
Alors que ça devrait être l'inverse ?
Alors que donc ils perdent le sentiment de liberté que vous décrivez. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que leur vie professionnelle prend toute la place et que d'une certaine manière, leur vie personnelle ou privée, c'est ce qui reste après le travail.
Et est-ce que ce deuxième confinement est plus dur parce que dans le premier confinement, il y avait un mode survie pour les entreprises. Tout le monde s'y mettait. On ne se posait même pas la question du lendemain parce qu'il fallait faire un protocole sanitaire. On était dans l'urgence.
Faut y aller, ouais.
Et là, on a le temps de réfléchir. Et dans beaucoup d'entreprises, la pérennité de la boîte est en jeu dans ce deuxième confinement à cause de la situation économique.
Voilà, il y a deux raisons majeures pour lesquelles ça se passe plus mal. La première, c'est que tout le monde a compris, les entreprises comme les individus, que tout cela va durer. Quand le Premier ministre dit « il faudra rester durablement en télétravail, même après le 1er décembre, si on est déconfiné ce jour-là », tout le monde sent que ça n'a rien à voir avec le printemps. On se dit « c'est deux mois à passer un peu dur ».
Et donc voilà. Le message, c'est quoi ? C'est « il va falloir qu'on s'habitue à cette nouvelle vie ».
Exactement. Et ça signifie que les entreprises vont devoir également s'organiser pour vivre avec cette nouvelle vie. Et ça, c'est le deuxième message. C'est-à-dire que le niveau d'anxiété sanitaire n'est pas plus fort. En revanche, le niveau d'anxiété professionnelle, le sentiment... Vous avez des collaborateurs qui n'ont pas mis les pieds dans l'entreprise depuis près de 6 mois ou 8 mois. Et donc, une sorte de déconnexion. Et en même temps, dans le même temps, votre entreprise et votre vie professionnelle qui commencent à occuper tout votre espace et toutes vos pensées.
Merci en tout cas Benoît Serre, c'est absolument passionnant ce que vous nous racontez à chaque fois concernant vos conseils. Là, c'était sur les risques psychosociaux liés au télétravail. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines.
Et un grand merci également à Pierre-Emmanuel Bercegey, fondateur de WeHelp Service, à la personne de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission.
Emmanuel, on se retrouve demain à 13h, on va parler de quoi demain ?
J'ai la réponse, j'ai tout prévu, on parle lunettes, on sera avec Chris.
Formidable, alors à demain, dans un instant le flash suivi de Christophe Ondelat.
C'était La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.